Vous écoutez, on lit pour vous.
Voir, juger, agir, l'héritage oublié de la jeunesse ouvrière catholique. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir. Grand oublié des manuels d'histoire et de la mémoire collective, la jeunesse ouvrière catholique, JOC, a été une force vive de l'émancipation des francophones, des classes populaires et des femmes au Québec avant même la fameuse Révolution tranquille. Avec un nom pareil, on s'imagine tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de très ancien qui ne devait pas exactement se démarquer par son progressisme ni son avant-gardisme. Et pourtant, c'est un pan de l'histoire du Québec qu'on ne connaît pas, dit en entrevue Annie Doniel, la réalisatrice du documentaire « Voir, juger, agir », l'histoire de la JOC au Québec. La JOC est un mouvement qui a appris à des jeunes, souvent de conditions modestes, à ne pas avoir honte d'où ils venaient et à devenir les acteurs de leur propre vie. Présents aussi bien en ville qu'en région, ces jeunes qui se réunissaient dans des sous-sols d'église ont été des moteurs de changement dans leur quartier, en éducation et dans les milieux de travail. Le coup de génie d'un chanoine. La JOC est imaginée par un chanoine belge, Joseph Léon Cardjin, au milieu des années 1920, quand le monde traverse de grands bouleversements sociaux qui seront aggravés par la terrible dépression économique de 1929. Elle se veut une réponse à l'éloignement grandissant des jeunes de la pratique religieuse et à la montée de la popularité du communisme. Signe des temps, elle donne lieu, au début, à des rassemblements de masse où des jeunes en uniforme défilent dans des stades derrière des drapeaux. On voit même des saluts romains et des marches aux flambeaux autour de grosses croix. Ce genre de démonstration lui passera après la Seconde Guerre mondiale avec l'évolution des modes de mobilisation. Le coup de génie du chanoine Cardjin, disent des experts, a été de se tenir loin du prêchi-prêchant de l'Église et de faire plutôt de la JOC une organisation animée par ses jeunes membres et visant une spiritualité par l'action et la transformation sociale. Il y aura aussi une jeunesse étudiante catholique, JEC, et même, pendant un temps, une jeunesse agricole catholique. L'idée ne tardera pas à trouver des adeptes au Québec, où la JOC s'implantera dès 1932. Elle y comptera rapidement 252 sections partout sur le territoire. Riche en témoignages, mais aussi en photos et en films d'archives, le documentaire de 70 minutes qui sera présenté dans au moins une douzaine de salles à travers le Québec à partir du 3 avril montre une jeunesse pleine de vie et de projets, mais aussi des individus studieux qui tiennent des réunions, organisent des activités, mènent des actions et rencontrent des décideurs. Une autre sorte d'école. Résumé par les mots d'ordre « voir, juger, agir », l'approche de la JOC cherche à montrer à des jeunes souvent peu scolarisés et issus de milieux modestes à constater par eux-mêmes qu'ils ne sont pas seuls à vivre certains problèmes. Voir, à en comprendre les causes, juger et, enfin, à leur trouver des solutions. Agir. On parle d'un temps où il n'était pas rare de trouver des enfants de 14 ans dans les usines. Marie-Claire Nadeau s'est jointe au mouvement en 1962. Elle avait 17 ans et détestait son emploi de dactylo. Je me disais, je ne peux pas croire que je vais faire ça toute ma vie, se rappelle-t-elle en entrevue. À la JOC, on nous disait qu'un jeune ouvrier vaut plus que tout l'or du monde. C'est fort quand tu entends ça. La JOC ne faisait pas dans l'embrigadement religieux, affirme-t-elle. C'était un mouvement, mais aussi une sorte d'école qui nous apprenait une méthode, que je qualifierais de sociologique, et qui m'a servi toute ma vie, dit celle qui aidera plus tard la syndicalisation de travailleuses d'usines de couture, avant d'œuvrer auprès d'organisations de femmes au Pérou et de travailler au sein de l'économie sociale. Pour appuyer son action sur des faits, le mouvement réalisait chaque année une enquête sur le terrain. Ces enquêtes déboucheront, entre autres, sur les premiers cours de préparation au mariage, les premiers services de loisirs dans les villes, des réformes de l'éducation mises en avant par la fameuse commission Parent, des coopératives d'habitation et de multiples actions de défense des travailleurs. Comme la JOC était présente dans plusieurs pays, elle était également animée par un esprit international fort. Cela amène certains de ses membres à participer à des congrès et des missions à l'étranger. Place aux femmes. Étonnamment, on ne sait pas exactement combien de jeunes faisaient partie de la JOC au Québec jusqu'à ce que ses rangs commencent à se dégarnir graduellement au tournant des années 1970 et qu'elle soit dissoute en 2022. Ils étaient certainement plusieurs milliers, dit Annie Deniel. Et plus de filles que de gars. La JOC était beaucoup un mouvement de femmes. En effet, contrairement à ce que pourraient laisser croire les hommes en soutane qu'on voit sur les images d'époque, les jeunes femmes trouvent dans la JOC une organisation qui les encourage à s'exprimer, à occuper des postes de responsabilité et à remettre en cause les rôles étriqués d'ouvrières, de caissières, d'enseignantes, puis de mères au foyer auxquelles on les cantonne. Jeunesse d'aujourd'hui. En plus de contribuer à toutes sortes d'avancées sociales et économiques au Québec, avant, pendant et après la fameuse Révolution tranquille, la JOC fera naître des vocations de syndicalistes, d'organisateurs communautaires, de coopérants internationaux ou encore de chefs de file du mouvement féministe. On a pourtant surtout entendu parler de ceux qui sont passés par la branche étudiante du mouvement, la JEC comme Gérard Pelletier, Fernand Dumont, Jeanne Sauvé, Guy Rocher et Louise Arel. Peut-être parce que c'était des universitaires qui parlaient bien, pas du monde pauvre et ordinaire comme nous, dit Marie-Claire Nadeau. Annie Deniel espère que son film ne sera pas qu'un rappel de l'histoire oubliée de la JOC au Québec, mais aussi une source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui. Moi-même, je viens d'un milieu ouvrier, et ces histoires de jeunes qui ont assumé qui ils étaient et ont osé prendre la place qui leur revenait pour transformer le Québec m'apparaissent un bel exemple à suivre. C'était Voir, juger, agir, l'héritage oublié de la jeunesse ouvrière catholique. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir.
Ces oiseaux qui annoncent le printemps au Québec. Un texte commandité paru le 23 mars 2026 dans la presse. À partir du mois de mars, les oiseaux migrateurs reviennent progressivement au Québec pour rejoindre leurs aires de reproduction. Leur présence est un signe indéniable de l'arrivée du printemps. Voici cinq espèces emblématiques dont la réapparition marque le changement de saison. Le merle d'Amérique. Reconnaissable à sa poitrine rouge brique, à son dos gris foncé, à son cercle oculaire blanc et à son bec jaune, le merle d'Amérique est l'une des premières espèces migratrices à réapparaître au Québec lorsque les températures s'adoucissent et que le sol perd sa couverture de neige. Cet oiseau, fort commun et facilement observable, se nourrit en sautillant sur les terrains à la recherche de vers de terre, de chenilles et d'insectes. Il penche souvent la tête de côté pour détecter le mouvement de sa proie. Son chant harmonieux est l'un des premiers à s'élever le matin et l'un des derniers à se faire entendre le soir. À l'occasion, quelques merles hardies passent l'hiver ici lorsque les fruits sauvages abondent. Le bruant chanteur. En provenance du sud des États-Unis ou du Mexique, le bruant chanteur arrive au Québec très tôt au printemps. Dès la fin du mois de mars, ce petit oiseau robuste, qui porte bien son nom, fait résonner son chant mélodieux de l'aube au crépuscule. Il présente un plumage dorsal brunâtre, fortement rayé, une poitrine blanchâtre rayée de brun avec un point central foncé, une calotte brun foncé avec des bandes grises et une longue queue arrondie à son extrémité. Le bruant chanteur est une espèce très territoriale et d'ordinaire monogame. Il se nourrit principalement de graines, d'insectes et de petites baies qu'il trouve en fouillant le sol ou les arbustes et visite souvent les mangeoires. En période de reproduction, le mâle peut s'égosiller plus de 200 fois par heure pour revendiquer son territoire et attirer une femelle. Le carouge à épaulettes. D'une taille moyenne de 22 cm, le carouge à épaulettes s'avère l'une des premières espèces aviaires migratrices à revenir au Québec au printemps. Cet oiseau migre en grosses bandes d'individus très bruyants. Son arrivée ne passe donc pas inaperçue. Chez cette espèce, le mâle et la femelle se distinguent au premier coup d'œil tant leur plumage diffère. Le mâle possède en effet un plumage noir lustré avec des taches rouges bordées de jaune bien caractéristiques aux épaules. La femelle présente en revanche une parure nettement différente avec un dos brunâtre et une poitrine blanchâtre sillonnée de rayures brunes. Pendant la saison des amours, le mâle, qui est polygyne, s'accouple avec plusieurs femelles et défend farouchement son territoire contre les intrus. Le saviez-vous? Chez de nombreux oiseaux migrateurs, les mâles reviennent aux zones de reproduction estivale avant les femelles et se font concurrence pour obtenir les meilleurs lieux de nidification. Loi des neiges. Au printemps, l'oie des neiges quitte ses aires d'hivernage aux États-Unis pour entreprendre une longue migration vers son territoire de reproduction situé dans le nord du Canada, où la toundra lui offre de bonnes conditions pour élever ses petits. Cet oiseau peut alors facilement être observé dans le ciel du sud du Québec à partir du début avril, ainsi que dans certaines haltes migratoires bien précises. Il se déplace en grand nombre et adopte une formation en V, très caractéristique pour optimiser son vol sur de longues distances. Son corps est presque entièrement blanc, avec un peu de noir au bout des ailes. Notez toutefois qu'il existe une forme d'oie des neiges plus foncée. L'oie des neiges se reproduit avec le même partenaire toute sa vie, sauf en cas de décès de celui-ci. L'hirondelle bicolore. L'arrivée du printemps rime sans conteste avec le retour du balai aérien de l'hirondelle bicolore. C'est en effet le premier hirundinidé à revenir au Québec pour y passer la douce saison. Chaque année, cet oiseau migrateur quitte sa zone d'hivernage qui se situe au sud des États-Unis et en Amérique centrale et parcourt des milliers de kilomètres pour se reproduire sur le territoire québécois. Il peut être observé dans le sud de la province dès le mois d'avril. Cette espèce est facilement reconnaissable à son dessus bleuté irisé et à son dessous blanc éclatant. Elle se nourrit presque exclusivement d'insectes capturés en vol, tels que des mouches et des moustiques. L'hirondelle bicolore niche volontiers dans les nichoirs qui lui sont offerts. C'était « Ces oiseaux qui annoncent le printemps au Québec », un texte commandité paru le 23 mars 2026 dans la presse.
Décès tragique à 84 ans. Comment freiner le mal de vivre chez les aînés? Un texte de Justine Mercier, équipe d'enquête, paru le 7 avril 2026 dans La Voix de l'Est. Une coroner a formulé trois recommandations après le suicide d'une octogénaire survenue en janvier 2025. Maxime Picard archive La Tribune. Trois-Rivières. Un matin de janvier 2025. Une dame de 84 ans est retrouvée couchée au sol sous le balcon de son appartement du troisième étage de sa résidence, relate la coroner Mélanie Ricard dans son rapport d'investigation. Les secours sont appelés et transportent la femme encore consciente à l'hôpital. L'octogénaire rend son dernier souffle l'après-midi même des suites de ses multiples blessures. Le coroner a conclu à un suicide. Méfiante. Les proches de la défunte ont confié qu'elle présentait des troubles psychologiques, dont des idées paranoïaques depuis de nombreuses années. Depuis des mois, la dame était solitaire et méfiante, mais elle refusait de consulter en psychiatrie. 2 heures à peine avant d'avoir été retrouvée sous son balcon, l'octogénaire était de belle humeur et ne démontrait aucun signe de détresse psychologique, selon le préposé qui est passé lui donner sa médication. Les policiers ayant enquêté sur ce décès ont appris que l'octogénaire avait tenu des propos suicidaires 2 mois plus tôt en affirmant à un préposé de sa RPA qu'elle allait un jour sauter en bas de son balcon. Le préposé lui avait dit de ne pas faire ce geste et avait tenté de l'encourager, mais aucun avis n'avait été fait aux responsables des soins et rien n'aurait été noté au dossier, expose Maître Ricard dans son rapport. Tendance à la hausse. Selon l'Ordre des psychologues du Québec, 15% des personnes de 65 ans et plus éprouvent une détresse psychologique significative. C'est 2 fois plus qu'avant la pandémie de COVID-19, précise Maître Ricard. Un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec soulève qu'entre 2008 et 2022, le taux d'hospitalisation lié à des tentatives de suicide chez les aînés a augmenté de 60%. Selon cette dernière étude, avec le vieillissement de la population au Québec, si leur taux de suicide reste à leur niveau actuel, une hausse importante du nombre absolu de suicides chez les personnes aînées est à prévoir. Extrait du rapport de la coroner Mélanie Ricard. Le rapport de l'INSPQ note qu'en 2021, des aînés étaient concernés dans près du quart des décès par suicide au sein de la population adulte de 20 ans et plus. 40 ans plus tôt, en 1981, cette proportion était beaucoup moins élevée, à un peu moins de 10%. Le président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS, Hugo Fournier, souligne qu'avec la vague de bébés-boomers qui vont devenir nos futurs aînés, il importe de redoubler d'ardeur et d'efforts auprès de cette tranche d'âge. Les stresseurs, comme le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, une transition dans un milieu de vie pour aînés et l'apparition de divers problèmes de santé, sont des moments critiques qui peuvent être difficiles pour eux et apporter beaucoup de détresse, expose M. Fournier. Hugo Fournier, président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS. La solitude doit aussi être considéré, dit-il, car les aînés parqués dans des résidences par des proches qui ne les visitent pas sont loin d'être un mythe. Le grand patron de la QPS rappelle que le suicide est multifactoriel, que ce ne sont pas tous les aînés vivant des situations difficiles qui y songent, mais collectivement. La société peut en faire davantage pour reconnaître les signaux de détresse et soutenir ceux qui souffrent, estime M. Fournier. Aînés autonomes. La défunte dont il est question dans le rapport de Maître Ricard demeurait dans une RPA pour personnes autonomes. La coroner soulève que dans ces milieux, la majorité des interactions ont lieu avec le personnel de soutien, comme ceux affectés à l'entretien ménager ou à la cafétéria. Ce sont eux que les résidents côtoient au quotidien et avec qui ils développent des liens de confiance et d'amitié, écrit Maître Ricard. Ils font partie, au même titre que le personnel de soins, des employés qui devraient pouvoir intervenir. Dans le cadre de son investigation, la coroner a obtenu la confirmation que la RPA avait sensibilisé ses employés à l'importance de documenter et de signaler les propos ou les comportements inquiétants. l'idée d'outiller le personnel en matière de prévention du suicide chez les aînés est une avenue particulièrement prometteuse afin de prévenir des décès dans des circonstances similaires, expose Maître Ricard. Recommandation. Maître Ricard recommande à l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS, de favoriser l'implantation de réseaux sentinelles dans les RPA. L'objectif est de former des employés, des bénévoles ou des proches en contact avec des aînés vulnérables pour qu'ils puissent repérer, soutenir et référer les personnes en détresse vers les ressources d'aide. En parallèle, la coroner recommande à Santé Québec de déployer des efforts supplémentaires pour que des réseaux sentinelles soient implantés dans les RPA. La Société d'État est aussi invitée à faire la promotion et à s'assurer que le plus grand nombre possible d'intervenants soient formés en prévention du suicide dans les milieux de vie pour aînés. Un rapport d'une autre coroner, rédigé à la suite du suicide d'un septuagénaire survenu à Rouyn-Noranda en 2024, recommandait aux autorités de bonifier les campagnes de sensibilisation et de prévention du suicide en y incluant les aînés. À la QPS, Hugo Fournier ajoute que plusieurs facteurs de protection peuvent être mis en place pour éviter que les aînés tombent dans une spirale de détresse. Les activités leur procurant un sentiment d'utilité sont particulièrement valorisantes, dit-il, tout comme les échanges intergénérationnels. C'était « Décès tragique à 84 ans, comment freiner le mal de vivre chez les aînés », un texte de Justine Mercier, équipe d'enquête, paru le 7 avril 2026 dans La Voix de l'Est.
Guerre au Moyen-Orient. Israël poursuit ses frappes au Liban malgré la trêve irano-américaine. Un texte de l'AFP, paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban mercredi matin et renouvelé ses ordres d'évacuation pour la population de cette vaste région, Israël affirmant que la trêve irano-américaine n'incluait pas le Liban. Le Hezbollah pro-iranien, pour sa part, n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis une heure locale environ, mardi 22h GMT. Israël a déclaré soutenir l'accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l'Iran, mais précisé qu'il n'incluait pas le Liban. Selon l'Agence nationale d'information, ANI, plusieurs frappes ont visé mercredi matin des localités du sud du pays. Une frappe a notamment visé un immeuble de la région de Tyr, selon un correspondant de l'AFP, peu après un nouvel ordre d'évacuation de l'armée israélienne concernant ce secteur spécifique. Le porte-parole de l'armée en langue arabe, le colonel Avitché Adraé, a également ordonné sur X aux habitants d'une vaste zone entre la frontière israélienne et le fleuve Zarani, à une cinquantaine de kilomètres plus au nord, d'évacuer, affirmant que la bataille se poursuivait. L'armée libanaise a, quant à elle, appelé mercredi matin dans un communiqué les déplacés à attendre avant de rentrer dans le sud du pays par précaution. Un correspondant de l'AFP dans la région de Tyr a vu un petit nombre de personnes en voiture et des familles avec des enfants sur des motos rentrer vers des zones qu'ils avaient évacuées au début de la guerre. Les frappes israéliennes sur le Liban depuis le 2 mars ont fait plus de 1 500 morts et plus d'un million de déplacés, notamment du sud et de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Ali Youssef, un livreur de 50 ans qui campe sous une tente aux abords de la banlieue sud, a affirmé qu'il attendait un communiqué du Hezbollah avant de décider de rentrer chez lui dans cette zone pilonnée par Israël. L'Iran ne va pas nous laisser tomber, assure cet homme, alors que Téhéran a dit avoir exigé pour accepter la trêve la fin des attaques contre ses alliés dans la région. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu partout, y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise. Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé que le cessez-le-feu devait inclure pleinement le Liban sur la durée. Selon une source officielle de l'AFP, les autorités libanaises n'ont pas été informées de l'inclusion du Liban dans la trêve. C'était guerre au Moyen-Orient. Israël poursuit ses frappes au Liban malgré la trêve irano-américaine. Un texte de l'AFP paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.
Ressources d'hébergement en dépendance. Québec retire sa subvention à la maison Carignan de Trois-Rivières. Un texte de Simon Charret, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Faute de financement de la part du gouvernement du Québec, la maison Carignan de Trois-Rivières n'acceptera plus de nouvelles personnes judiciarisées souhaitant traiter leur dépendance. Le gouvernement n'accordera plus la subvention de 26 $ par jour par personne hébergée. La directrice de la maison Carignan a pu, à la suite du reportage de TVA Nouvelles, rencontrer le ministère de la Sécurité publique et déplore le manque d'ouverture. Plusieurs ressources, évidemment, ont décidé, à la suite de la fermeture du ministère, de revoir leurs ententes de financement marginales, de ne pas signer d'engagement et ont été retirées de la liste, ce qui fait que la Mauricie-Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Québec et plusieurs régions sont dénuées de services pour les personnes judiciarisées, explique Valérie Piché, directrice de la maison Carignan. Le ministère aurait également dit à la directrice que le traitement des dépendances ne fait pas partie de sa mission. Il ne cadrerait pas nécessairement dans son objectif de réinsertion des ex-détenus. Donc, on retire ce financement-là. Après, on nous dit que c'est à cause d'inégalités, mais vous devriez demander du financement au ministère de la Santé et des Services sociaux. On avait discuté des coûts associés au traitement de dépendance. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas d'accès universel aux services en dépendance, et le ministère ne finance qu'environ le tiers des services qui sont offerts, ajoute Mme Piché. Rappelons que la maison Carignan héberge mensuellement jusqu'à 12 personnes judiciarisées, ce qui lui permettait jusqu'à tout récemment d'empocher jusqu'à 136 000 $ annuellement pour couvrir les frais liés à l'hébergement de ces personnes. C'était « Ressources d'hébergement en dépendance, Québec retire sa subvention à la maison Carignan de Trois-Rivières », un texte de Simon Charret, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.